Vous êtes sur RTL. RTL Grand Soir.
Christophe Paco.
Invité d'RTL Soir aux côtés de Marc-Olivier Fogiel. Brigitte Macron s'est donc exprimée pendant plus d'une heure ce soir sur RTL, sans barrière, sans retenue. La Première Dame a évoqué tous les sujets du moment. Tout d'abord, elle est revenue sur sa situation 2 ans après son arrivée à l'Élysée. Et un sentiment, vous allez l'entendre, un constat, un qualificatif, heureuse.
Oui, indubitablement, résolument, très heureuse. Parce que je suis arrivée à préserver mon couple au sein de l'Élysée. Au départ, ça n'était pas donné.
J'imagine, oui.
J'avais été avertie, suravertie aussi des risques. Et en fin de compte, pas du tout. On arrive à mener une vie de couple tout à fait normal.
Mais c'était votre crainte que votre couple puisse finalement, peut-être pas éclater, mais être abîmé ?
Que mon couple ou mes enfants en pâtissent. Ça a toujours été mon souci premier. Or, j'arrive tout à fait à mener la vie que je souhaitais au sein de l'Élysée. D'un autre côté maintenant, avec le recul de ces 2 ans, j'ai fait des rencontres extraordinaires. J'ai vécu des choses hors normes. Et je suis arrivée à préserver ce qui est essentiel pour moi. Donc, merci. C'est tout ce que je peux dire. Et puis, avant tout, vis-à-vis des Français, c'est un honneur. C'est plus un honneur qu'une charge.
Le regard également de Brigitte Macron pendant ce long entretien sur son mari, un président qui a forcément changé pendant ses 2 années de pouvoir comme bien de ses prédécesseurs, avec en plus une crise intérieure des plus délicates à gérer ces derniers mois, depuis la mi-novembre, la crise des Gilets jaunes.
Il y avait une crise, c'est certain. Et quand on parle avec certains, cette crise, elle était prévisible. Parce qu'en gros, qu'est-ce qu'ils disent ? À peu près la même chose. C'est qu'à partir du 15 du mois, la vie est impossible. Une fois que vous avez payé votre logement, que vous avez payé tout ce que vous avez à payer, vous ne pouvez pas. Et on veut que nos enfants aient accès au meilleur. Ils sont très soucieux que leurs enfants aient accès à tout. Or, ce fameux ascenseur social, ils disent qu'il est en panne et je les crois. Donc, c'est clair que le président va agir. Je ne pense pas qu'il l'avait minimisé. Et je pense qu'il y a des réformes qu'il avait planifiées plus tard, qu'il a fait plus tôt. Et ce qui a été très bien, c'est le grand débat. Ça lui a fait beaucoup de bien, les grands débats. C'était parfois long, mais ça a été très utile pour lui. Je sais qu'il avait besoin de ces rencontres. Parce que regardez bien, écoutez-le depuis le grand débat, il a évolué. Il est plus prêt.
Autre dossier sensible, le dossier qui a débuté dès l'été dernier, la fameuse affaire Benalla.
Personnellement, j'ai été étonnée de l'ampleur qu'elle a prise. Moi, j'avais très peu affaire à lui. Donc, j'étais un peu surprise.
Il avait les clés de votre maison en Touquet.
Tout le monde a les clés de notre maison.
Tout le monde a les clés de votre maison en Touquet.
C'est-à-dire que les gendarmes qui sont en face ont les clés de notre maison en Touquet. Tout le monde peut avoir accès. On a certainement minimisé. Certainement. Ça, je vous l'avoue, mais moi, la première. Et je trouve ça plutôt sympathique que vous reconnaissiez que le président ait de l'affect. Mais parfois, peut-être que l'affect perturbe la raison.
Vous, là, à 2 ans, est-ce que vous dites que ce truc-là a été mal géré simplement et qu'il aurait tranché dans le vif? On lui reprocherait moins tout ce qu'on lui reproche?
Peut-être. Peut-être aurait-il fallu dire tout de suite qu'il y a un problème. Bon, il est exclu. Peut-être. Mais c'est pas si facile. Parce que c'est de l'humain. Les gens qui travaillent avec nous, du jour au lendemain, vous pouvez pas leur dire, non, vous travaillez pas avec nous. C'est impossible. C'est-à-dire, bien sûr qu'il est président. Mais avant tout, c'est un homme.
Bonsoir Marc-Olivier Fogiel.
Bonsoir Christophe.
C'était l'événement aujourd'hui d'une grandeur d'entretien. Comment vous l'avez trouvé tout simplement, la Première Dame ?
Très franche, très cash. Je redoutais qu'elle refuse d'aller sur certains sujets. Dès le début, elle y est allée presque toute seule.
Elle ne vous a pas demandé d'éluder certains sujets ?
Non, elle ne m'avait rien demandé, mais j'imaginais que ça allait être un peu plus compliqué. Elle venait d'abord pour parler de ses engagements. Aucune question n'était interdite, mais je pensais qu'elle allait me ramener en permanence à ses engagements. Et immédiatement, elle a tout ouvert. J'avais prévu évidemment des questions qui me permettaient d'arriver à des choses qui nous intéressent, nous évidemment, sur ces 2 ans à l'Élysée, son bilan, etc. Et j'ai vu qu'elle y allait directement, toute seule. Grosso modo, elle parle pas souvent, mais quand elle décide de parler, elle le fait vraiment. Et donc j'étais agréablement surpris par cette envie d'être franche, directe et cash.
Que ce soit même entre l'intimité et son rôle presque politique. Aujourd'hui, on a vu que ses déplacements à Lyon et Marseille la semaine dernière.
Moi, c'est ce que j'aime faire, Christophe, vous me connaissez. Oui. J'aime bien tout appréhender dans la personnalité de quelqu'un, aussi bien ce qu'il est, ce qu'elle est, et puis évidemment son rôle dans la société. Et donc, je trouve que cette interview, elle est réussie de ce point de vue. Le spectre est large, et je pense que pour bien comprendre quelqu'un, on a la chance sur RTL d'avoir du temps, donc je l'ai utilisé, ce temps. J'ai pu tout aborder, qui elle est, à travers qui elle est, ce qu'elle fait, et à partir de ce qu'elle fait, la politique.
Elle se définit, elle se qualifie presque comme une courroie de transmission.
C'est ce qu'elle dit, comme une prise de terre. C'est la prise de terre avec la réalité pour un président qui, de temps en temps, est un peu trop enfermé dans ses dossiers.
son rôle auprès du président. Elle dit souvent le président, hein, d'ailleurs.
Vous savez, elle dit le président quand, quand elle parle de la fonction, et elle dit Emmanuel quand elle parle de l'homme. Et je trouve, j'étais très surpris par ça, la façon dont elle arrive à différencier dans l'interview l'homme quand elle veut parler de son mari, elle dit Emmanuel. Quand elle parle de l'homme sur la scène publique, elle dit le président, et elle le fait très facilement.
L'épisode Benalla, l'épisode des Gilets jaunes, on vient de les écouter, tous ces extraits, elle a parlé de tout. Et puis il y a cette petite phrase quand même, c'est venu même tout seul.
Être un couple, c'est compliqué. C'est quand même compliqué, c'est une lutte de tous les jours. Dans un couple, le moi est définitivement haïssable. Il faut penser à l'autre. Ce n'est pas toujours évident.
Et pour revenir à l'Élysée,
et quand on n'a pas le même âge, quand on a une grande différence d'âge comme nous, nous avons, c'est peut-être encore plus compliqué. Alors, il y a un mot que je déteste, et que je déteste. C'est le mot cougar. Qu'est-ce que c'est que ce mot ? Donc, ça ne correspond à rien.
Vous n'êtes pas une cougar, Brigitte.
Mais j'ai toujours été attirée par les hommes de mon âge. Sauf Emmanuel Macron était l'exception. J'ai vécu au milieu d'adolescents. C'est ça. Et cette appétence.
Et ça vous choque, ça ?
Oui, complètement.
Ça la choque. Vous l'avez trouvée heureuse au bout de 2 ans ?
J'ai l'impression qu'elle l'est. J'ai l'impression qu'elle se réalise à travers ce qu'elle fait. Ce matin, quand elle était là dans les studios d'RTL, j'avais l'impression qu'elle était à sa place, simplement. Donc, je ne la connais pas bien, donc je ne peux pas dire si elle est fondamentalement heureuse. En tout cas, c'est l'impression qu'elle dégage. Et sur une heure d'interview, il y a les choses qu'elle dit, puis il y a les choses qui sont perceptibles. Et je pense qu'on perçoit quelqu'un qui a l'impression d'être à sa place et de faire des choses concrètes pour aider les gens qui la contactent. Donc oui, elle a un rôle social en tout cas, et je pense qu'elle se réalise à travers ce rôle social.
Entretien exceptionnel, vous l'avez dit, c'est la première fois qu'elle parle en plus, la première dame, Brigitte Macron, depuis l'élection.
À la radio, à la télé, oui, elle avait donné une interview à elle en arrivant, plus du tout depuis. Elle avait dit un petit mot ici avec Mika pour le harcèlement scolaire.
Tout à fait.
Et la première fois qu'elle fait un bilan de 2 ans à l'Élysée, elle l'a fait sur RTL et je la remercie.
Et entretien complet à retrouver bien évidemment
sur RTL.fr.
Merci Marc-Olivier Fogiel.
Merci.
RTL Grand Soir avec Christophe Paco.
22h08, l'Ordre des médecins a donné son feu vert à un retour à l'exercice de la médecine à l'ex-ministre du budget, Jérôme Cahuzac. Docteur Cahuzac, condamné l'an dernier à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis pour fraude fiscale et blanchiment, et qui a obtenu au final un aménagement de peine avec le port d'un bracelet électronique qui va donc, Thomas Proutot, en rien l'empêcher de reprendre du service à 66 ans, tout près de chez lui en Corse du Sud.
Eh bien, Jérôme Cahuzac a désormais toute liberté de s'installer comme généraliste indépendant ou de rejoindre un établissement médical de Corse du Sud, là où il vit désormais, dans le petit village de Pianottoli-Caldarello. Il ne redeviendra pas chirurgien, cela fait presque 20 ans que l'ancien ministre du budget n'a pas pratiqué, mais il a obtenu l'accord définitif auprès de ses pairs pour exercer la médecine générale. C'est à lui maintenant de prendre sa décision. Jérôme Cahuzac avait fait sa demande d'agrément en Corse il y a presque un an après son procès en appel. Entre-temps, la saisine du Conseil de l'Ordre par un confrère l'avait un peu refroidi selon nos informations, à tel point que dans le dossier présenté au juge ce printemps pour demander son bracelet électronique, le condamné à 2 ans ferme a présenté un nouveau projet, consultant à domicile. Mais de son côté, l'hôpital de Bonifacio a fait savoir qu'il manquait de praticiens. S'il accepte un poste, on pourra donc prochainement consulter le docteur Cahuzac.
Thomas Proutot, service police-justice d'RTL. 33 ans après, le tueur de la gare de Perpignan, Jacques Rançon, condamné à la perpétuité pour un double assassinat dans les années 90, vient d'avouer un troisième meurtre. Celui en 86, 10 appels ménage en Picardie, et ce, grâce au combat mené pour la vérité, combat permanent de la part de la famille de la jeune fille. À Besançon, le docteur anesthésiste Frédéric Péchier, soupçonné de 24 empoisonnements, dont 9 se seraient avérés mortels, continue de nier les faits, mettant en exergue le manque de preuves à ce jour de sa culpabilité. Sinon, comme il le dit, il serait en prison. Une déclaration, chez nos confrères en tout cas de la Nouvelle République, qui a fait réagir l'une des filles d'une victime, son papa, Amandine, jointe par Cindy Hubert.
La première réaction, c'est l'écœurement. Il profite de ça pour tenter de nous humilier et nous discréditer en racontant tout et n'importe quoi. On connaît très bien le dossier. Pour nous, cet homme est abject. Et tous les éléments prouvent qu'il est un empoisonneur. On ne laissera pas nous intimider. Il y a quand même des faits qui sont là. Les personnes qui sont plus vivantes aujourd'hui, c'est quand même pas par enchantement. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est intervenu? On voudrait que ça avance et qu'on puisse arrêtez de dire n'importe quoi. On a l'impression que le mensonge, la connivence et la manipulation sont ses armes de défense depuis le début.
Amandine, jointe par Cindy Hubert pour RTL. La cour d'assises du Haut-Rhin a condamné ce soir Sylvie Horning à 20 ans de réclusion criminelle pour avoir tué 5 de ses nouveau-nés qu'elle ne considérait pas comme de vrais bébés. Les excuses du conducteur qui a agressé une personne malvoyante et son accompagnateur dimanche dernier en plein Paris sur un passage clouté. Pendant sa garde à vue, il a évoqué un mauvais réflexe, un coup de sang pour avoir entendu visiblement les deux personnes l'apostropher pour son incivilité. Un tout nouveau métier, assistant médical. Un accord a en effet été signé ce matin entre l'assurance maladie et les trois principaux syndicats de médecins libéraux après 5 mois tout de même de négociations. Les médecins vont pouvoir compter désormais sur la présence de 4000 assistants potentiels et ces médecins seront subventionnés pour cette nouvelle fonction avec en échange l'obligation de recevoir plus de patients sur une année. Le taux de chômage, bientôt plus bas depuis 2008, il devrait s'établir à 8,3% de la population active et ce à la fin de l'année selon l'INSEE. La croissance, elle, devrait de son côté marquer le pas pour s'établir à 1,3%. C'est 0,4 points de moins que l'année dernière. Et puis comme prévu, il va falloir réparer les soudures défectueuses de l'EPR de Flamanville. C'est en tout cas la demande faite aujourd'hui par l'autorité de sûreté nucléaire et son président à EDF, Bernard Derozuc, président de cette autorité.
Nous disons clairement à EDF que ces soudures doivent être réparées. Autrement dit, la qualité de ces soudures n'est pas suffisante pour exclure le risque de rupture. Et donc il faut les réparer. Et nous disons à EDF que le seul scénario réaliste de réparation, c'est celui d'une réparation avant mise en service. Les exigences qui ont été fixées pour la qualité des soudures de ces tuyauteries sont totalement équivalentes aux exigences qui ont été fixées, mais qui ont aussi été atteintes pour le réacteur d'Olkiluoto en Finlande et pour les réacteurs de Taishan en Chine. Et donc, il est tout à fait possible de réaliser ces soudures avec le haut niveau de qualité qui avait été proposé par EDF et accepté par l'ASN.
Bernard Derozuc, président de l'autorité de sûreté nucléaire. EDF estime pouvoir faire ses réparations d'ici fin 2022. Et avec la transition entre les grandes centrales nucléaires, il va falloir réfléchir également aux meilleurs moyens d'alimenter pendant cette période les foyers français concernés par ces travaux. Et puis ce soir, difficile de ne pas rester insensible au sort de ces vaches aperçues dans une nouvelle vidéo de l'association L214 qui dénonce la pose de véritables hublots sur ces bovins à des fins de recherche pour scruter au plus près l'estomac des vaches. Une ouverture béante sur le flanc de ces dernières pour y déposer des aliments ou effectuer tout simplement des prélèvements. Image difficilement soutenable pour beaucoup, tournée dans un centre de recherche de la Sarthe du groupe Avril qui réplique que le procédé est nécessaire à la recherche animale. Alors Jacques Serret, adjoint pour RTL, Jean-Baptiste Coulon, il est le président du centre INRA Auvergne-Rhône-Alpes, dans lequel les chercheurs travaillent sur cette technique.
L'opération qui consiste à poser cette canule, elle se fait dans des conditions opératoires qui sont proches de ce qu'on fait en humaine. Elles se font dans une salle d'opération avec des chirurgiens qui sont habilités et sous anesthésie, hein, voilà, pour qu'on limite au maximum la douleur à ce moment-là. Les questions auxquelles on cherche à répondre en utilisant ces animaux, c'est des questions qui vont conduire à faire des recommandations à des éleveurs, hein, au jour le jour dans leurs exploitations, donc sur des animaux de rente, normaux. Donc, il est absolument obligatoire, essentiel, que les conditions dans lesquelles on va conduire les animaux expérimentaux soient identiques à celles où on proposera les solutions issues de cette conduite. Parce que sinon, un, les résultats scientifiques n'auront aucune valeur, et deux, ils ne pourront pas être applicables sur le terrain. Donc, on a fait en sorte, et on a mesuré le comportement des animaux avec des indicateurs indirects de souffrance pour valider le fait que au cours de leur vie, ces animaux ont le même niveau de bien-être que des animaux conduits normalement.
Jean-Baptiste Coulon de l'INRA avec Jacques Serret, service qualité de la vie. Entre 20 et 25 communes vont être reconnues en état de catastrophe naturelle après la grêle, les intempéries du week-end dernier, en Ardèche, dans la Drôme, l'Isère, la Savoie ou encore la Haute-Savoie, c'est ce que vient d'indiquer en tout cas le ministère de l'Agriculture. À l'étranger, un drone qui sème le trouble accentue la tension entre Iran et États-Unis. La République islamique a abattu un drone espion américain qu'elle a vu sur et dans son espace aérien. Donald Trump, lui de ce côté, évoque une énorme erreur. Et puis les dirigeants européens sont à Bruxelles ce soir pour un grand dîner en ce moment même de concertation, avec comme objectif de tenter de trouver un tout nouveau président pour la Commission européenne. Aucun prétendant aujourd'hui ne faisant l'unanimité.